c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire du Chevalier Noir. Un épisode de Faites Entrer l'Accusé, écrit et réalisé par Richard Vargas. Rédactrice en chef, Isabelle Clarac. Bonne écoute.
Septembre 2007. Il est 22h quand la police reçoit l'appel au secours d'un adolescent. Un jeune qui demande aux policiers de venir au plus vite à la caserne de Montigny-le-Bretonneux, le centre de formation des jeunes sapeurs-pompiers.
Brigadier chef Philippe C, compagnie départementale d'intervention des Yvelines.
Sur les ondes, on nous informe d'une rixe ou d'une agression. Enfin, ça, c'est pas très très précis.
Brigadier chef Thomas B, compagnie départementale d'intervention des Yvelines.
La caserne est fermée, tout a l'air calme. On escalade le portail, on rentre dans la caserne.
On est deux équipes, à ce moment-là, on monte. Et en fait, à l'intérieur, c'est des longs couloirs, mais des très très longs couloirs qui font toute la longueur du bâtiment, en fait. Et régulièrement, il y a des portes.
On progresse doucement afin de... Bah, on veut s'assurer, voir si, où a lieu cette rixe, voir ce qui se passe. Et là, on voit une porte qui s'ouvre et qui se referme très rapidement. Bon, visiblement, quelqu'un qui ne souhaite pas nous voir. On frappe à plusieurs reprises. Personne ne répond. On décide d'essayer d'ouvrir. On sent une résistance derrière la porte. On continue de forcer, la porte finit par s'ouvrir. Et là surgit un homme qui se prétend être capitaine de pompiers, chef de la caserne, et qui nous demande ce qu'on fait là. Là, il essaye tout de suite de jouer de son grade, de son statut, pour vraiment nous dissuader d'intervenir. Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez rien à faire là, vous dégagez d'ici. Et là, donc, on s'aperçoit que c'est une chambre. Il y a un lit avec un jeune adolescent, en caleçon, complètement endormi, drogué, groggy, je ne sais pas. On a du mal à le réveiller, à avoir vraiment une discussion avec lui. D'un coup, il reprend connaissance un petit peu et il se met à pleurer, sans plus d'explication.
Pendant que les policiers tentent de réveiller l'adolescent, deux autres jeunes surgissent du fond du couloir.
Et là, je vois un adolescent qui arrive vers moi, qui est hagard, qui titube. Et il s'écroule à nos pieds. Et là, il y a un deuxième individu qui, lui, est plutôt bien. Il nous explique qu'il est en formation, qu'il fait du sport avec un capitaine, qu'ils n'ont pas mangé, qu'ils sont très fatigués et qu'il y a eu des trucs avec le capitaine.
Quand le gamin par terre reprend ses esprits, les policiers commencent à comprendre sur quoi ils sont tombés.
Il nous parle d'actes sexuels, de fellations, d'attouchements, que c'est lui qui a appelé dans les toilettes, qui s'est échappé de sa chambre, que l'autre l'avait tenu dans sa chambre. On le rassure, on lui dit « Voyez, nous, on est la police, on est là pour vous aider. »
Tout en rassurant les jeunes dans la chambre, les policiers fouillent le suspect, qui fait maintenant profil bas.
On se rend compte que ce capitaine essaye de cacher un appareil photo numérique dans sa poche. On lui demande de le remettre, ce qu'il refuse dans un premier temps. On insiste un petit peu. À ce moment-là, il commence vraiment à se liquéfier. On sent qu'il transpire beaucoup, il est très rouge. Il finit par nous le remettre. Il était allumé. Et on a regardé quelques photos, on a tout de suite compris ce qui se passait.
Sur la carte mémoire, des dizaines de photos de jeunes garçons déshabillés, dans les positions les plus obscènes.
Quand je regarde les photos, ouais, j'ai un sentiment de dégoût, de malaise, de la colère. C'est un petit peu vertigineux, parce que l'affaire prend tout de suite une autre dimension. On n'est plus sur une rixe ou sur une agression. Là, on prend conscience qu'on est sur du criminel.
Le capitaine est immédiatement placé en garde à vue. Il s'appelle Fabrice Motch. C'est le responsable de la formation des jeunes sapeurs-pompiers des Yvelines. Il a 42 ans, il est marié à une certaine Yannick Lanoux et il a une réputation à tout casser.
Major Philippe B, brigade des mineurs de Viroflay.
Les parents, quand ils apprennent ça, c'est la douche froide. C'est un coup de tonnerre pour eux.
Commandant de police Jennifer Doll, brigade des mineurs de Viroflay.
Motch, c'est quelqu'un qui impose énormément. Quelqu'un d'autoritaire. On peut dire qu'il est craint et vénéré à la fois.
Avant d'interroger le capitaine, les policiers entendent des victimes. Les trois jeunes racontent tous la même histoire. Le capitaine Motch les a convoqués pour leur faire passer une série de tests physiques. À leur arrivée, il leur a attribué une chambre chacun.
Première surprise pour les jeunes sapeurs-pompiers, ils se rendent compte qu'ils sont dans des chambres assez distantes les unes des autres, alors qu'ils pensaient se retrouver dans le même dortoir. Ensuite, le capitaine leur explique qu'ils doivent subir une visite médicale. Deuxième surprise pour les jeunes sapeurs-pompiers qui ne s'attendaient pas à subir cette visite. Il y a certaines questions qui interpellent un peu les jeunes puisqu'ils leur demandent s'ils ont l'habitude de se masturber, s'ils ont une petite copine, s'ils ont déjà eu des rapports sexuels. Il leur demande de se déshabiller. L'un d'eux, d'ailleurs, est surpris parce que M. Motch lui baisse le pantalon pour prendre son pouls au niveau de l'aine et il sent que le capitaine lui effleure le sexe.
Après ça, entraînement. Il est environ 18 heures. Les exercices se succèdent sans répit. Course à pied, séance de pompe, traction. Les trois petits gars sont à bout de force.
Les jeunes n'en peuvent plus, mais c'est le capitaine Motch qui les entraîne, c'est pas rien. Et puis, quelque part, il leur fait comprendre que on ne rentre pas chez les pompiers comme ça, que ça se mérite. Donc, ils ne veulent pas décevoir leur supérieur hiérarchique et ils vont jusqu'au bout.
Deux heures plus tard, Motch les envoie sous la douche.
Visiblement, il reste dans le secteur parce qu'un des jeunes sapeurs-pompiers dit que M. Motch regarde son sexe avec insistance.
Avant de les laisser dormir, le capitaine leur distribue trois comprimés pour prévenir les courbatures, dit-il. En réalité, un Rohypnol et deux Stilnox à avaler avec un verre de rhum. Autant dire... un coup de massue.
Ils vont tomber très rapidement dans un sommeil profond. Un des trois jeunes sapeurs-pompiers explique qu'à un moment donné, il est réveillé parce qu'on est en train de lui retirer son pantalon. À ce moment-là, il a des souvenirs assez flous, il a surtout des images, c'est-à-dire qu'il voit un flash d'appareil photo. Et il voit M. Motch penché sur lui et qui commet sur lui des agressions sexuelles. Il se dit que s'il arrive à bouger, peut-être que ça fera fuir son agresseur. Et c'est ce qui se passe.
Le jeune pompier parvient à se traîner péniblement vers les toilettes. C'est là qu'il a donné l'alerte. C'est maintenant au tour du capitaine Motch de s'expliquer. Pris en flagrant délit, il va avoir du mal à se défiler.
Motch vient très rapidement au fait. C'est-à-dire qu'il ne cherche ni à nier, ni à minimiser ses faits. Et il reconnaît l'intégralité des actes.
Major Philippe B., brigade des mineurs de Viroflay.
Quand on lui demande de ses attirances sexuelles, Motch nous dit qu'il n'est pas attiré par la gente féminine, ce n'est pas sa tasse de thé, et qu'avec son épouse, il n'a plus d'attirance sexuelle. En revanche, il nous dit qu'il est attiré par des jeunes garçons pré-adultes, âgés entre 15 et 18 ans.
Commandant de police Jennifer Doll, brigade des mineurs de Viroflay.
Ce qui l'intéresse, c'est les sexes de ces jeunes. Le but pour lui, c'est de prendre en photo leur sexe, de les mettre en érection, à avec éventuellement sa main posée à côté.
Il raconte tout ça assez, de manière assez distante, sans affect, sans réelle émotion non plus.
Par contre, il ne semble pas prendre conscience réellement de la monstruosité de ce qu'il a pu commettre.
Inconscient ou trop sûr de lui ? Ce capitaine, qui en 98 posait fièrement au milieu de ses jeunes recrues, en chef de troupe. Dominique, grâce au coup de fil d'un jeune pompier, les policiers viennent de sortir trois gamins des griffes de Motch.
Oui, en flagrant délit, ce qui, on l'imagine, est vraiment rare dans ce genre d'affaires, et ça ne va pas s'arrêter là. Parce que pendant son audition, pendant sa garde à vue, Motch va avouer quatre autres agressions sexuelles. Trois sur des jeunes pompiers et une sur son beau-fils. Il raconte qu'il a commencé à toucher son beau-fils quand il avait 12 ou 13 ans. J'ai repris de plus belle quand il avait 15 ou 16 ans. Et il raconte au policier médusé qu'il lui faisait prendre des somnifères, qu'il le masturbait et que pendant ce temps, il le prenait en photo.
Et la femme de Motch, elle l'a su ?
Alors sa femme, c'est elle, hein, Yannick Lanoux. Motch dit qu'elle savait, elle, quand elle est convoquée par les policiers, elle dit aux policiers, c'est vrai que quand mon fils avait 15 ou 16 ans, Motch a voulu prendre sa douche avec lui, c'est ce que m'a dit mon fils cadet. Donc je suis allé voir Motch, les policiers disent, vous lui avez dit quoi ? Bah, je lui ai dit que chez moi, ça se passait pas comme ça, qu'il fallait qu'il arrête. Mais bon, j'ai considéré que c'était un fait isolé, sans gravité, et les choses, Rachid, en sont restées là.
Et qu'est-ce qu'il risque, Fabrice Motch ?
Il risque gros, hein, parce qu'il est mis en examen pour détention d'images pornographiques mettant en scène des mineurs. Il est mis en examen pour agression sexuelle sur mineurs. La peine encourue, c'est 7 ans. Il est mis en examen pour viol sur mineurs. Peine encourue, 15 ans. Et ces peines peuvent être portées à 10 et 20 ans si elles sont commises par une personne ayant autorité. Et Motch a autorité. Il est à la fois beau-père et capitaine, et ça constitue des circonstances aggravantes.
Pendant que Motch file à la prison de Bois-d'Arcy, les policiers se remettent immédiatement au travail. Motch est de bonne volonté, mais on ne sait jamais. Il a peut-être oublié quelques victimes. Et ils font bien, car un témoin va faire basculer le dossier. Un rebondissement totalement inattendu dans une affaire de viol. Strasbourg, 18 avril 2008. C'est le major Marc Saguer qui a convoqué Valérie Motch, la sœur cadette du capitaine des pompiers. Un témoin qui peut aider les policiers à cerner la personnalité de Motch. Elle a 38 ans. Elle paraît fragile. Mais le brigadier a de la bouteille.
Je sens que c'est une personne donc, qui a du vécu. C'est quelqu'un qui a dû souffrir, certainement.
Brigadier-major Marc Saguer, police judiciaire de Strasbourg.
Je sentais qu'elle était craintive, donc je l'ai rassurée tout de suite. Vous savez, je vous entends dans le cadre du commissaire rogatoire. Il faut que vous me parliez de votre frère, de la personnalité de votre frère, tout. Vous êtes entendu comme témoin, il n'y a pas de problème.
Le policier lui notifie d'abord les charges qui sont retenues contre son frère. Et elle ne paraît pas surprise.
Mon frère, c'est un enfoiré, qu'elle m'a dit. Qu'elle n'a plus de contact avec, qu'elle ne veut plus voir, que son frère, c'est un enfoiré, voilà.
Un enfoiré. Visiblement, Valérie Motch en a gros sur le cœur. Mais tout cela a du mal à sortir.
Elle me tend un cahier. Bon, ben, moi, tout de suite, ben, je lis le début du truc. Mais je vois qu'elle raconte sa vie, quoi. Tout ce qu'elle a pu subir de son frère. Je découvre dans le cahier qu'elle a subi des viols de l'âge de 7 ans à 11 ans.
4 années à subir les assauts de son propre frère.
Elle raconte vraiment tout dans le détail. Tout ce qu'il lui a fait subir depuis son enfance et tout. Quand je vois ce qu'il a fait, je me dis, bon, ben, ce gars-là, je veux dire, bonjour, quoi. Et comment il a pu même arriver à faire des trucs aussi ignobles, quoi, à sa propre sœur, quoi.
Une nouvelle victime de Fabrice Motch. Le policier ne l'a pas vu venir. Il enchaîne. D'abord sur l'histoire de la famille.
L'enfance de son frère s'est déroulée normalement. Il n'a jamais été maltraité. Elle n'a pas eu des parents, je veux dire, qui lui auraient fait subir quoi que ce soit, ce gars-là. Il a eu une enfance comme ses frères et sœurs, je veux dire, normale.
Valérie décrit son frère comme quelqu'un d'intelligent, mais aussi comme un manipulateur dont elle a toujours eu une peur bleue.
Elle souffre d'avoir subi les violences de son frère, mais elle souffre aussi de ne pas avoir dénoncé et puis de se rendre compte qu'à cause d'elle, y en a d'autres qui ont subi les mêmes choses.
Une audition en forme de confession. Valérie Motsch signe son PV d'une main tremblante, mais reste assise.
Pour moi, c'est fini. Puis elle part pas, elle reste. Elle tourne en rond, je dis, alors, si vous avez quelque chose d'autre à ajouter, vous pouvez me le dire, et puis voilà. Ah oui, elle me dit, je viens vous dire quelque chose, mais je veux pas que ça soit mentionné sur le procès-verbal. Je dis, il n'y a pas de problème. Si vous avez quelque chose à me dire, il faut pas avoir peur de le dire, voilà.
Mise en confiance par le policier, Valérie Motsch finit par se lâcher. Son frère n'a pas seulement commis des viols, il a aussi tué un homme, un certain Philippe Picot.
Quand elle me dit ça, forcément, je tombe des nues. Puis je me dis, est-ce que c'est vraiment la vérité? Donc je lui redemande si effectivement, elle m'a dit, oui, je pense qu'il l'a éliminé parce qu'il m'a demandé de l'aide pour faire disparaître le corps.
Dominique, c'est qui ce Philippe Picot?
C'est lui, l'ancien mari de Yannick Lanoux. Ensemble, ils ont eu 3 enfants. Alors, bien sûr, le juge d'instruction en charge des viols des jeunes sapeurs-pompiers convoque Valérie Motsch et elle se répète. Elle lui dit « Mes deux frères, Lionel et Fabrice, ont fait disparaître Philippe Picot. Je le sais parce qu'ils m'ont demandé de leur donner un coup de main. C'était au printemps 1996. » Bien sûr, elle a refusé et elle raconte au juge quelques temps plus tard. Lionel m'a dit « Ça y est, c'est réglé. » Et Fabrice a confirmé. En revanche, elle est incapable de dire où se trouve le corps de Philippe Picot et comment il a été tué.
Et pourquoi est-ce qu'elle n'a rien dit?
Parce qu'elle a eu peur. Elle venait d'avoir un bébé, elle avait peur des représailles de son frère, Fabrice. Mais maintenant qu'il est en prison pour l'affaire des pompiers, là, elle peut parler.
Si c'est vrai, le dossier pour viol et agression sexuelle vient de s'étoffer d'un assassinat.
Oui, à condition que ce soit vrai. En tout cas, le juge d'instruction doit vérifier. Il a besoin d'un cadre légal qu'il va demander au procureur de la République de Versailles, lequel ouvre une information judiciaire, nouvelle enquête confiée à l'APJ Versailles.
L'APJ reprend tout depuis le début pour constater qu'il y a très longtemps que Philippe Picot est sorti des radars, depuis 1996, comme l'a dit Valérie Motsch. La seule trace de lui qu'il découvre, c'est une fausse piste que l'ex-femme de Picot a lancée en bavardant avec une employée de mairie.
Commandant Laurent Duchâtel, police judiciaire de Versailles.
Lorsqu'on prend contact avec le service de l'état civil à Magny-les-Hameaux, on rencontre une employée qui nous dit « Moi, j'ai discuté avec Yannick Lanoux qui m'a dit que Philippe Picot était parti vivre en Bretagne et qu'il avait eu un enfant qui se prénommait Firmin. » On déclenche tout un tas de recherches afin d'essayer de retrouver les traces de la naissance d'un enfant qui se prénommait Firmin. Et on découvre rien.
Ce qui est vrai, en revanche, c'est que Yannick Lanoux s'est marié à Philippe Picot en 1974. Ils ont eu 3 enfants. Une première fille, aveugle de naissance, et 2 garçons. Philippe Picot était routier avant de travailler dans une casse et de devenir exploitant forestier. Sa passion, la chasse. Il y passait tous ses week-ends avec ses copains et ses chiens.
Pente battue, casse-croûte.
Yannick, elle, était femme au foyer. De témoin en témoin, les policiers réussissent à dater sa disparition. Un peu avant les fêtes de Noël, le dimanche 15 décembre 1996. C'est sa dernière sortie de chasse. Après ça, plus personne ne l'a vu. Sa famille a fini par s'inquiéter. Sa mère s'est même rendue chez Yannick Lanoux à Magny-les-Hameaux pour savoir où était passé son fils.
Brigitte Picot, sœur de Philippe.
Yannick lui dit, il est parti, t'as qu'à venir voir, toutes ses affaires ont disparu. Ma mère dit, c'est pas normal, il serait parti où? Elle lui dit, mais il est parti avec une poule, t'as qu'à venir voir, il a pris toutes ses affaires.
Maître Michel Dessertaine, avocat de la famille Picot.
Effectivement, il n'a plus ses effets personnels, les armoires où il y avait ses vêtements sont vides, ses fusils ont disparu, il n'a plus rien.
Donc elle lui dit maintenant, ça suffit, il est parti, voilà, c'est pas la peine de revenir.
Que Philippe claque la porte, ça n'a surpris personne. Son mariage battait de l'aile. Il a fini par s'installer dans une cabane en forêt, à quelques kilomètres de chez lui, et ne passait plus que de temps en temps à la maison pour voir les enfants. Mais de là à ne plus donner aucun signe de vie à personne...
On ne connaît aucune relation extra-conjugale à Philippe. Ça paraît quand même assez louche qu'il ait disparu comme ça du jour au lendemain, sans donner de nouvelles, sans appeler sa mère. Et là, on ne comprend plus rien à la situation.
Florida Gauthier, amie de la famille Picot.
Partir, disparaître avec une femme, je ne comprends pas bien, parce qu'il était séparé d'avec sa femme, donc il n'avait pas besoin de disparaître finalement. Donc oui, ça nous a vraiment inquiétés. Donc pour nous, ce n'est pas possible. Il ne peut pas disparaître comme ça. C'est impossible.
Quant à sa mère, elle a eu tellement de mal à y croire qu'elle a fini par se rendre chez les gendarmes.
Les gendarmes lui disent, écoutez madame, votre fils est majeur, il n'y a pas de souci de santé particulier, s'il est parti, c'est qu'il avait envie de partir, et de toute façon, c'est pas à vous de faire quoi que ce soit, c'est à sa femme. Rideau.
Pour ma mère, qui est déjà dans un état dépressif, c'est une catastrophe. Tout le monde se met à la recherche de Philippe, on interroge. Mon jeune frère Dominique a interrogé les amis de Philippe, mais ça n'a donné aucun résultat.
Le 17 février 97, 2 mois après la disparition de Philippe, les gendarmes ont reçu une autre visite, celle de l'épouse cette fois. Yannick Lanoux est passé leur signaler un abandon de famille.
Elle parle de son mari qui ne verse rien pour les enfants. Donc on lui demande si elle veut déposer plainte. Elle dit non, je ne veux pas déposer plainte. Donc ça donne un document assez hybride qui est un procès-verbal d'audition de témoins sans plainte. Voilà.
Du coup, les gendarmes n'ont rien fait. Les semaines ont passé et des bruits ont commencé à courir. On aurait vu Philippe en Corse, en Bretagne... 2 ans plus tard, toujours sans nouvelles, sa famille a appris que Yannick demandait le divorce.
Elle obtient bien sûr un divorce par défaut en 1998, ce qui lui permettra plus tard, à la fin de la même année 98, d'épouser Fabrice Motsch.
Le capitaine Motsch. L'homme a 10 ans de moins qu'elle. C'est le fils aîné de Yannick qui les a réunis en 95. 1 an avant la disparition de son père, le gamin fait un stage chez les pompiers. Sa mère l'accompagne et tombe amoureuse du capitaine. Quelque temps après leur mariage, Yannick tombe enceinte de Fabrice Motsch. C'est à cette époque-là qu'elle se met à raconter partout l'histoire du petit Firmin.
Ma mère m'apprend que Yannick a reçu un papier émanant de la Sécurité sociale destiné à Philippe, qui faisait objet de la naissance d'un enfant de Philippe, qui aurait été prénommé Firmin. On reste sans voix parce que si Philippe avait eu un enfant, s'il ait refait sa vie avec une autre femme, il nous l'aurait dit, il n'avait aucune raison de cacher quoi que ce soit à personne.
Un petit Firmin ? L'enfant devient le dernier espoir auquel la famille Picot peut se raccrocher. Mince espoir.
Tous les jours, on se demande, tu es où, Philippe ? Est-ce qu'il est mort ? Est-ce que vraiment il est parti refaire sa vie ? Et puis les années ont passé. Et pas de Philippe.
Il aura donc fallu attendre 12 ans et le témoignage de Valérie Motsch pour entendre de nouveau parler de Philippe Picot. Entre-temps, sa famille s'est décimée. Son père, sa mère et deux frères sont morts. En 2009, ils ne sont plus que cinq. Deux frères et trois sœurs, qui n'ont qu'une idée en tête. Savoir ce qui est arrivé à Philippe et lui rendre justice. Les policiers vont donc entendre ceux qui sont au cœur du drame. Les trois suspects. Yannick Lanoux, Fabrice Motsch et son frère Lionel.
Commandant Laurent Duchâtel, police judiciaire de Versailles.
Lorsqu'on entend Yannick Lanoux et Lionel Motsch, on ne parle pas d'assassinat. On ne parle que de disparition. On fait simplement des auditions pour fixer leur déclaration sur la disparition de Philippe Picot.
Tranquillisé, Yannick Lanoux rejoue donc à la PJ le numéro qu'elle sert depuis des années.
Yannick Lanoux nous dit qu'effectivement son mari a disparu, en nous décrivant un mari violent et alcoolique. Elle nous confirme ce qu'elle avait dit à l'employé de Magny-les-Hameaux, à savoir que Philippe Picot était, selon elle, parti en Bretagne, où il avait eu un enfant qui se prénommait Firmin. Et Lionel Motsch, quant à lui, nous dit que tout ce qu'il sait de Philippe Picot, c'est ce que lui a raconté son frère, qu'il n'a jamais rencontré Philippe Picot et qu'il ne le connaît pas.
De toute évidence, ils mentent tous les deux. Mais les policiers les laissent tranquilles, pour le moment.
Le but de ces premières auditions, c'est surtout d'avoir un retour sur les écoutes téléphoniques sur Lionel Motsch et sur Yannick Lanoux. Et d'ailleurs, ça va pas mal fonctionner parce que après ces auditions, on a une conversation sur les écoutes où Yannick Lanoux reparle à Lionel Motsch de cette histoire de petit garçon Firmin. Et on sent, nous, à ce moment-là, que cette conversation, elle est pour nous, en fait.
Quelques jours plus tard, c'est au tour du capitaine des pompiers de s'expliquer à la PJ. Il faut donc l'extraire de sa cellule où il est incarcéré depuis septembre 2007.
C'est moi qui vais le chercher à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy avec un de mes collègues et on se reconnaît tout de suite. Enfin, il me reconnaît tout de suite. Il me dit « Ah, bonjour Monsieur Duchâtel, comment allez-vous » Je dis « Ça va et vous, Monsieur Motsch, Capitaine Motsch ?»
Si l'ambiance est détendue, c'est que les deux hommes se connaissent.
De l'ancien site de la société Bulle, il ne reste plus que des cendres. 2 hectares sont partis en fumée après qu'un violent incendie a éclaté vers 14 heures.
Quelques années auparavant, Motsch a fait une belle boulette. Au cours d'un exercice incendie qu'il supervisait, tout le site Bulle de Louvciennes est parti en fumée. Sa responsabilité a été engagée et c'est le commandant Duchâtel qui a suivi l'enquête.
Je lui demande pas dans la voiture s'il est responsable de la disparition de Philippe Picot. On n'aborde quasiment pas le sujet. On discute de sa vie en prison. L'échange est cordial dans la voiture.
Le policier veut des aveux et il a une idée en tête pour aider Motsch à vider son sac.
Fabrice Motsch, c'est une serrure en fait. Et la clé pour ouvrir cette serrure, elle est hiérarchique. Parce qu'il était capitaine des pompiers, moi je suis commandant de police, donc si on faisait partie de la même administration, je serais plus gradé que lui en fait. Et dans l'audition, au départ, à la première question, capitaine Motsch, pas Fabrice Motsch, capitaine Motsch, est-ce que vous êtes responsable de la disparition de Philippe Picot ? Il répond oui, tout de suite. Et il explique tout le déroulé du meurtre de Philippe Picot.
Je l'ai poignardé. Et j'ai fait disparaître son corps. Pas le genre à tourner autour du pot, Motsch. Et ce n'est pas tout.
Fabrice Motsch ne se contente pas de nous dire qu'il est responsable de la mort de Philippe Picot, mais il nous dit également que la décision a été prise avec Yannick Lanoux et qu'il a reçu l'aide de son frère.
Le capitaine balance ses complices et s'explique.
Il veut vivre avec Yannick Lanoux et Philippe Picot est un obstacle à la relation entre lui et Yannick Lanoux. Il ne trouve pas d'autre solution que de le faire disparaître parce que Philippe Picot n'aurait jamais accepté de divorcer. C'est un salaud, il est violent, il boit, il frappe sa femme, il frappe ses enfants. la seule solution qu'il voit, c'est de tuer Philippe Picot, c'est de le faire disparaître pour pouvoir vivre avec Yannick Lanou.
Un chevalier blanc, ce Fabrice Motsch, prêt à tout pour défendre la mère et ses petits. Le crime a été programmé un dimanche soir parce que Yannick connaissait les habitudes de son mari. En revenant de la chasse, il serait fatigué. Il deviendrait tout à fait inoffensif avec un petit sédatif. Philippe Picot a avalé son repas, sans se douter qu'il était assaisonné de somnifères, avant de monter se coucher au premier vertige. Vers 21h, alors que les enfants dormaient au premier, Yannick a fait entrer Lionel et Fabrice par la porte de derrière.
Ils ont prévu d'emmener tout ce qu'il fallait, hein, sac poubelle, des couteaux, des scies. Le nécessaire pour tuer et découper un corps et le faire disparaître. Les deux frères montent à l'étage. Fabrice dit: au moment de poignarder Philippe Picot, j'hésite. C'est mon frère qui prend le couteau et qui le poignarde. Ensuite, ils emmènent le corps dans la salle de bain. Ils le vident de son sang en lui tranchant la gorge. Le corps est ensuite descendu dans la cuisine, où il est découpé. Et ensuite, Lionel Motsch va prendre la tête et le tronc et va s'en débarrasser. Et Fabrice Motsch, les quatre autres morceaux du corps, va les faire disparaître dans des poubelles de la région. Il raconte ce déroulé des faits de façon quasi naturelle, en fait. Quand je lui dis, mais monsieur Motsch, enfin le capitaine Motsch, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Je lui dis, il devait avoir énormément de sang. Et il me dit, ah non, c'était pas une boucherie. Il est en train de découper encore en 6 morceaux avec l'aide de son frère et il me dit, c'est pas une boucherie. Ouais, c'est fou.
Une mort propre, sans témoin, un corps introuvable. Le scénario du crime parfait. Mais si le capitaine est aussi causant, c'est peut-être parce que son crime est prescrit et qu'il sait qu'il ne risque rien.
Maître Philippe Huvet, avocat de la famille Picot.
Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes le 26 janvier 2009 et que le crime a eu lieu le 16 décembre 1996, soit plus de 10 ans après la commission de ce meurtre. Autrement dit, il sait que la prescription joue pour lui.
À l'époque, la prescription en matière de meurtre est de 10 ans. Au-delà, le crime est prescrit.
Brigitte Picot, la sœur de Philippe.
Quand on apprend que Philippe a été assassiné, c'est quelque chose qui est tellement pas possible. C'est une onde de choc, hein. C'est le néant. Et j'ai passé des nuits et des nuits à cauchemarder en me demandant comment on peut bien faire pour découper un corps. Oh, comment on fait? C'était vraiment... c'est vraiment cauchemardesque.
Florida Gauthier, une amie de la famille Picot.
On est abasourdi. On voit ça qu'à la télé, en fait. On comprend pas. Et franchement, Philippe, mais à aucun moment, il aurait fait du mal à qui que ce soit. Et non, on comprend pas.
Après avoir obtenu les aveux de Fabrice Motsch, les policiers ont besoin d'entendre ses complices. Cette fois, le petit frère du capitaine est plus loquace.
Commandant Laurent Duchâtel, police judiciaire de Versailles.
Lionel Motsch, quand il avoue sa participation à l'assassinat de Philippe Picot, il insiste sur le fait que c'est un moyen d'exister pour lui aux yeux de son frère. Et il ne peut que croire son frère quand son frère lui dit « Mais Philippe Picot, tu comprends, c'est un salaud, il est violent, il boit, il frappe sa femme, il frappe ses enfants. » Donc, non seulement Lionel Motsch rend service à son frère, mais il a aussi le sentiment de faire une bonne action en participant à ce meurtre.
Solidaires, les frères Motsch. Mais ils n'ont pas la même version du crime.
Lionel Motsch dit qu'aucun coup de couteau n'est donné dans la chambre, dans le lit où Philippe Picot est endormi. Lui, il dit qu'il est étranglé. C'est là qu'il y a une différence dans les déclarations des deux frères.
D'après lui, il l'aurait étranglé tous les deux avant de le vider de son sang dans la baignoire. Sur la suite, la version des deux frères coïncide. Reste à entendre celle de Yannick Lanoux, qui les départagera peut-être.
C'est Yannick Lanoux le nœud de cette affaire. Parce que s'il n'y a pas Yannick Lanoux, il n'y a pas de meurtre.
Les policiers misent tout sur ses aveux.
Elle est agaçante, Yannick Lanoux. Elle va simplement se contenter de dire « Oui, alors je me doutais que... Oui, en effet, peut-être qu'il est mort. Oui, peut-être étais-je au courant. » Mais elle va essayer d'ergoter du début jusqu'à la fin, Yannick Lanoux. Elle n'assumera rien du tout.
Elle se montre même particulièrement gonflée, Yannick Lanoux.
Maître Mélodie Cudard, avocate de Yannick Lanoux.
Elle dit qu'elle a donné ses médicaments, que Philippe Picot les aurait vomis puisqu'il était rentré ivre de la chasse, qu'il aurait vomi ses médicaments puis qu'il serait allé s'allonger à l'étage. Et elle dira qu'elle ne sait pas ensuite ce qui s'est passé avec Fabrice et Lionel Motsch puisqu'elle n'a pas assisté à la suite. Elle a des souvenirs dont elle-même dit ne pas être certaine. Elle se voit prostrée dans le canapé. Et quelque chose qui revient très souvent dans son discours, c'est de dire « je n'ai entendu aucun bruit ». Et elle va dire que puisqu'elle ne se souvient d'aucun bruit, c'est que forcément, il n'a pas pu se passer quelque chose d'incroyable.
Surtout, elle nous dit qu'elle est persuadée que Philippe Picot est vivant. Et que tout le scénario des deux frères qui montent dans la chambre pour tuer Philippe Picot, le transporter dans la salle de bain, c'est en fait un scénario établi entre les deux frères Motsch et Philippe Picot pour que Philippe Picot quitte le domicile conjugal la tête haute. On se demande dans quel monde on est quand elle nous raconte ça.
Circuler, il n'y a pas de cadavre. Voilà la position de madame. Alors que Lionel Motsch l'accuse franchement d'avoir participé au crime.
Maître Salia Blalouze, avocate de Lionel Motsch.
Il explique que Yannick Lanoux était sur le palier lorsqu'il était dans la chambre avec son frère afin de s'assurer que les enfants qui étaient présents ce soir-là ne sortent pas de leur chambre. Il explique également que Yannick Lanoux était encore une fois présente pour fournir le film d'emballage et les sacs plastiques qui ont servi à emballer les morceaux de corps de M. Picot.
Un témoignage accablant. Mais Yannick Lanoux maintient contre vents et marées que son ex-mari est toujours en vie. Et pour preuve, elle a un argument imparable. S'il était vraiment mort, je le sentirais. Dominique, le juge d'instruction met tout le monde en examen du chef d'assassinat. Mm-hmm. Mais il va se passer un truc incroyable, il en relâche deux. Pourquoi Lionel Motsch et Yannick Lanoux ressortent libres de son bureau?
Parce que le meurtre de Philippe Picot est prescrit. Je vous rappelle que le dernier acte d'enquête, c'est ce signalement que va faire Yannick Lanoux à la gendarmerie en février 1997 pour dire « Mon mari a abandonné le domicile ». Là, on est en 2009. La décennie est écoulée, c'est le temps de la prescription. Donc, le meurtre de Philippe Picot est prescrit. Et c'est l'argument que vont utiliser les avocats de Lionel Motsch et de Yannick Lanoux. Et le juge est obligé de suivre. Le juge ne peut pas les placer en détention parce que les avocats vont faire un pourvoi, une demande de mise en liberté qu'ils obtiendront. Et en plus, ils vont demander des dommages et intérêts. Voilà pourquoi il les a laissés libres.
Alors si on résume, Fabrice Motsch ne doit répondre que des viols. Lionel Motsch et Yannick Lanoux sont libres. Il n'y a pas un moyen de contourner cette loi ?
Bah, ça va devenir l'obsession de tout le monde dans ce dossier. Du juge d'instruction, des enquêteurs, des parties civiles, à commencer par la sœur de Philippe Picot. Personne ne peut entendre que ces trois-là, les deux frères Motsch et Yannick Lanoux, pourront un jour échapper à la justice.
Maître Michel Dessertaine, avocat de la famille Picot.
Quand j'explique à la famille Picot qu'il y a un risque réel pour que ce crime soit prescrit et donc de rester impuni, savoir qu'il y a des assassins qui ont reconnu leur crime et qui ne risquent de ne pas être jugés, c'est insupportable. C'est insupportable.
Brigitte Picot, sœur de Philippe.
Prescription ? Non. Moi, je ne connais pas ce mot-là. Des gens tuent un homme, ils doivent répondre de leurs actes. Donc je me battrai jusqu'au bout, mais non. Prescription, pas question.
C'est d'autant plus insupportable pour la famille Picot que Fabrice Motsch et Yannick Lanoux se défendent en accusant Picot d'être un être abject qui faisait régner la terreur chez lui. Quant à Fabrice Motsch, il ne supportait plus de voir sa maîtresse en danger.
Maître Didier Liger, avocat de Fabrice Motsch.
Il apprend que le mari de cette femme est alcoolique et violent, agressif, qu'il menace sa femme, qu'il menace ses enfants, qu'il est passé à l'acte à plusieurs reprises.
Et au dire de Yannick Lanoux, à la veille des fêtes de Noël, Philippe Picot était devenu menaçant.
Maître Mélodie Cudard, avocate de Yannick Lanoux.
Elle explique qu'en décembre 1996, les choses se sont accélérées puisque M. Philippe Picot devient de plus en plus violent et aurait parlé à plusieurs reprises de faire cramer la maison pour Noël. Et elle dit qu'il avait ramené un grand nombre de bidons d'essence dans la maison et qu'elle a partagé cela avec Fabrice Motsch qui lui dit « On n'a plus le temps, ça devient dangereux pour toi, il faut qu'on trouve une solution. »
« Eh bien moi, je vais t'en débarrasser de ton tyran. » Et donc, il va organiser l'assassinat de Philippe Picot dans un comportement chevaleresque de quelqu'un qui veut protéger une famille.
Un vrai gentleman, ce Fabrice. Et pour la famille Picot, tout cela n'est qu'un tissu de mensonges destiné à justifier un crime odieux.
Brigitte Picot, la sœur de Philippe.
Philippe, un alcoolique, sincèrement, j'ai jamais vu Philippe en état d'ébriété. Ses amis, même, tous disent non. Nous, on buvait un verre, mais Philippe buvait du Diabolo Menthe. Hein. Quand ils allaient dans un café, Philippe, c'était Diabolo Menthe. Hein. Quand il y avait une dispute, Philippe, il calmait le jeu. Il avait horreur des conflits. Violents, non.
Commandant Laurent Duchâtel, police judiciaire de Versailles.
Des voisins qui seront entendus parleront peut-être une fois d'une dispute, mais pas plus. On n'a pas un résultat de violence quotidienne de Philippe Picot envers sa femme et sa famille. Il n'y a que Yannick Lanoux qui nous décrira un Philippe Picot alcoolique et violent.
Ulcérée, la famille Picot, et sa détermination à renvoyer Motsch et ses complices derrière les barreaux se renforce encore quand elle découvre un nouveau secret de famille. Un secret qui éclate le 5 juin 2009, quand l'aîné de Philippe Picot et de Yannick Lanoux se présente à la gendarmerie de Magny-les-Hameaux.
Maître Michel Dessertaine, avocat de la famille Picot.
Il vient en connaissant l'histoire des jeunes sapeurs-pompiers qui ont été violés, abusés par Fabrice Motsch. Il vient dire que lui aussi a été victime de ces viols-là.
Après le Benjamin, c'est maintenant l'aîné de Yannick Lanoux qui accuse Fabrice Motsch de viol.
Des faits qui remontent à 1995 et 1996, avant l'assassinat de Philippe Picot.
Le jeune homme raconte qu'il avait 14 ans à l'époque des faits. Sa mère l'accompagnait tous les mercredis et tous les samedis à la caserne, où il avait intégré le groupement des jeunes sapeurs-pompiers. Les week-ends,
Le capitaine lui proposait souvent des sorties au musée ou au cinéma, avec l'accord de sa mère. Son père n'était au courant de rien. Il lui arrivait même de dormir chez Fabrice Motsch. C'est là que le capitaine l'a persuadé qu'il pourrait l'aider à ne plus faire pipi au lit. À 6 ou 7 reprises, Motsch, après lui avoir demandé de se masturber, lui a introduit une sonde urinaire dans le sexe. Il se souvient que c'était très long et très douloureux. Le 10 novembre 2009, Motsch écope donc d'une nouvelle accusation. Mais cette fois, il s'agit d'un mineur de moins de 15 ans. Et ça, ça vaut 20 ans de prison. Comme d'habitude, Motsch reconnaît les faits devant le juge. L'idée de la sonde urinaire, c'était pour toucher son sexe et maîtriser le gamin.
Commandant Laurent Duchâtel, police judiciaire de Versailles.
Ça, c'était indétectable chez lui. Moi, quand je l'entends en 2006, je suis loin de m'imaginer qu'il est en train de violer des élèves pompiers et qu'il leur pose des sondes urinaires. Enfin, c'est complètement fou. C'est fou. Il leur pose des sondes urinaires, vous vous rendez compte? Pourquoi faire?
Brigitte Picot, sœur de Philippe.
Ça m'a tellement submergée qu'en fait, les larmes me coulaient. C'était un flot que je ne pouvais pas retenir. Savoir qu'il avait violé la chair de Philippe, c'est... Non, c'est quelque chose qui vous lève le cœur. C'est quelque chose même qui vous hante.
Fabrice Motsch avait donc déjà violé un des enfants de Philippe Picot avant de commettre son crime. Et ceci explique peut-être cela.
Florida Gauthier, amie de la famille Picot.
Philippe était très proche de son fils aîné. À un moment donné, il est certain que le gamin aurait parlé à son père. Il aurait pleuré, il aurait dit quelque chose ou il aurait fait des allusions à quelque chose. Philippe l'aurait appris, évidemment que Philippe aurait réagi. Il se serait retrouvé en face Motsch et là, je réponds de rien. Mais bien évidemment que le mobile, c'est ça. Ils ont éliminé Philippe avant que Philippe apprenne quelque chose. C'est certain.
Quant à la mère...
On s'interroge sur le fait de savoir si elle était informée ou au courant des actes dont ses enfants avaient été victimes.
Maître Philippe Huvet, avocat de la famille Picot.
Moi, je pense qu'à ce moment-là, c'est noué entre Yannick Lanoux et Fabrice Motsch, le pacte criminel, le secret, le pacte du secret. Je garde ton secret, on garde notre secret.
Ce pacte criminel entre Motsch et Lanoux, c'est une manière de cacher le crime.
C'est ce que pense la partie civile. Que Motsch ait pu dire à sa femme... Tu te tais pour les viols ou tu tombes avec moi pour le meurtre de ton mari. Et l'argument a de quoi convaincre.
Un viol de plus, mais ça fait toujours pas avancer la question de la prescription.
Alors Fabrice Motsch, lui, il est sous les verrous. Lionel Motsch et Yannick Lanoux sont en liberté surveillée, même si le juge espère pouvoir les faire comparaître devant la justice. En attendant de pouvoir trouver un moyen pour contourner la prescription, la justice avance et elle va déjà commencer par juger Fabrice Motsch pour les viols des jeunes pompiers, devant la cour d'assises de Versailles. On est le 17 mai 2010. C'est un procès à huis clos, à la demande des parties civiles.
À 44 ans, Fabrice Motsch est accusé d'avoir drogué et abusé de 7 jeunes sapeurs-pompiers, ainsi que de ses 2 beaux-fils.
Florida Gauthier, une amie de la famille Picot.
Il regarde les enfants, on sent que rien ne se dégage. Il n'a aucun remords, il est là parce qu'on lui a demandé d'être là. Il me dégoûte. Brigitte n'arrive pas à le regarder. Elle me dit non, regarde-le pour moi, j'y arrive pas. Elle a la tête baissée et en bas, sur le sol, je vois ses larmes qui tombent au sol. Franchement, cette fille me fait de la peine, elle me déchire le cœur. Elle se tient comme ça. Je lui prends la main et je lui dis « Lève la tête, lève la tête. »
Brigitte Picot, la sœur de Philippe.
Je pensais voir quelqu'un d'impressionnant, je pensais voir quelqu'un de charismatique, mais pas du tout. C'était un homme avec un ventre énorme, hein, la tête enfoncée dans son ventre. Vraiment quelqu'un sans personnalité, sans charisme, rien.
Ce que toute l'audience veut comprendre, c'est comment ce pompier bien noté et médaillé a pu violer impunément de jeunes recrues. Si la clé se cache dans son enfance, il faut la chercher à Maule, dans les Yvelines. L'expert psychiatre s'avance. Fabrice Motsch lui a raconté sa jeunesse, très solitaire. Et surtout, il lui a confié deux blessures secrètes.
Docteur Paul Bensussan, expert psychiatre.
Il évoque comme ayant marqué son enfance au point d'avoir une sorte de phobie sociale, c'est-à-dire de peur des autres, de peur de l'école. Il évoque un complexe qui est lié à une, ce qu'on appelle, je vais vous donner le terme jargonnant, une monorchidie, c'est-à-dire un seul testicule, l'autre n'étant pas descendu. Il dira aussi qu'il a peut-être un trop petit pénis, il n'en est pas sûr. De ce double complexe, un seul testicule et ce qu'il croit être un micro-pénis, va naître une véritable obsession pour le sexe masculin.
Un terrible complexe. Voilà qui expliquerait les séances photo à la caserne. Et Motsch a aussi confié un viol, commis par un chauffeur de car pendant un voyage scolaire. Il avait 14-15 ans.
Il parle de fellation réciproque, mais ce qui va le plus le marquer et le plus l'humilier, c'est qu'il va éjaculer. Et donc il ressent une forte culpabilité et des interrogations quant à son orientation sexuelle. Le sentiment d'humiliation durable qui va subsister de cette agression va servir, lorsque je le rencontre, de rationalisation de la façon dont il droguait ses victimes. Si je ne m'étais pas souvenu de cette agression, me dit-il, j'en aurais été moins marqué. Et donc, je voulais éviter à mes victimes le souvenir douloureux, pénible, etc. Évidemment, ça ne résiste pas un seul instant à une analyse critique. On ne peut pas y croire.
Reste cette sordide histoire de sonde urinaire sur laquelle le psychiatre est encore attendu.
Cette utilisation est... pour moi, n'a qu'un seul but. C'est le but d'obtenir chez sa victime une passivité totale. Parce que la manœuvre est à l'évidence dangereuse si on bouge. Il ne t'arrivera rien si tu restes totalement immobile, fais-moi confiance. Donc c'est une chosification, le terme psychiatrique c'est la réification de la victime, c'est-à-dire la transformer en objet.
Devant les jurés, Fabrice Motsch tente de se présenter comme un homme respectable. Mais l'expert psychiatre dessine un profil pour le moins préoccupant.
J'ai parlé de dangerosité. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il avait dans sa stéréotypie du mode opératoire la marque même de la perversion. Et dans cette façon de chosifier les victimes, de les instrumentaliser, d'utiliser son ascendant, on avait quasiment tous les critères d'une dangerosité, d'abord physique, mais également psychologique. On avait donc réellement un sujet très inquiétant. Le rendait plus inquiétant encore sa froideur affective, qui est très grande. Il parle avec un détachement impressionnant de ce qu'il a fait et son absence totale d'empathie.
Le 21 mai 2010, la cour condamne Fabrice Motsch à 15 ans de réclusion criminelle, assortie d'une peine de sûreté de 10 ans et d'une interdiction définitive d'exercer une activité auprès des mineurs. Le coupable ne bronche pas. Fabrice Motsch a pris 15 ans, mais la bataille judiciaire est loin d'être terminé, car le juge est toujours aussi déterminé à le renvoyer avec ses complices devant une cour d'assises pour l'assassinat de Philippe Picot. Et il travaille d'arrache-pied avec les policiers pour trouver le moyen de contourner la prescription. Si quelqu'un avait trouvé une partie du cadavre de Philippe Picot, ce serait une chance pour les policiers. Car la date de cette découverte ferait automatiquement redémarrer le compteur de la prescription.
Maître Philippe Huvet, avocat de la famille Picot.
Il faut savoir que la prescription peut être interrompue par un certain nombre d'actes de poursuite ou d'enquête.
notamment des procès-verbaux de gendarmerie, peuvent interrompre la prescription, ce qui signifie que la prescription recommence à zéro à partir de ce procès-verbal.
Dans le jargon judiciaire, c'est ce qu'on appelle un acte interruptif de prescription.
Commandant Laurent Duchâtel, police judiciaire de Versailles.
L'idée, c'était de découvrir des restes humains qui pouvaient être attribués à Philippe Picot par comparaison ADN avec ses enfants. Donc on va chercher beaucoup des restes humains non identifiés auprès des commissariats, des archives, des instituts médico-légaux, des cimetières.
Dans ses déclarations, Lionel Motsch explique qu'il s'est débarrassé de la tête et du tronc de Philippe Picot en les balançant dans la Seine, du côté de Rouen. Les policiers vont donc étendre leurs recherches de Rouen jusqu'à l'estuaire. Mais après plusieurs mois d'enquête, c'est l'échec. Au bout de 2 ans d'efforts, le juge d'instruction doit se faire à l'idée que Motsch s'en tirera avec une seule condamnation pour viol et que son frère et Yannick Lanoux resteront libres. Le dossier avance inéluctablement vers un non-lieu.
On savait que Yannick et Lionel Motsch étaient, eux, libres comme l'air.
Brigitte Picot, sœur de Philippe.
Et nous, toujours ligotés par cette fameuse prescription, toujours les pieds et poings liés. C'est révoltant, c'est complètement injuste. Pour Dominique, le plus jeune de mes frères, rien que le mot prescription a fait des ravages en lui. C'est petit à petit, ça l'a détruit. Jusqu'au jour où, en 2011, il s'est tiré une balle dans la tête.
Cinq années passent encore. 3 juges d'instruction se succèdent, qui se heurtent les uns après les autres au mur de la prescription. Jusqu'à ce qu'en 2014, une autre affaire vienne finalement sauver le dossier.
Il s'agira du procès le plus important en matière d'infanticide. Dominique Cotrez sera bien renvoyé devant une cour d'assises pour 8 infanticides. Il y a plus de 10 ans, la Cour de cassation n'a donc pas retenu la prescription de ces faits.
L'affaire Cotrez, cette mère qui a tué et enterré 8 nouveau-nés. Pour la première fois, la justice a réussi à faire sauter le verrou de la prescription en considérant qu'elle démarrait à la découverte des corps.
Maître Didier Liger, avocat de Fabrice Motsch.
La chambre criminelle va rejeter cette exception de prescription en disant que il y a une circonstance particulière, exceptionnelle, un obstacle insurmontable à l'exercice de l'action publique qui résulte du fait que cette femme était de forte corpulence, qu'elle avait caché ses grossesses successives à son entourage, qu'elle n'avait pas déclaré les naissances et qu'elle avait ensuite fait disparaître les corps, que cet ensemble d'événements rendait insurmontable, impossible, l'exercice de l'action publique jusqu'à ce qu'on découvre les cadavres. Et donc la Cour de cassation va dire, eh bien, dans ces conditions, la prescription n'est pas acquise.
Si la justice a pu agir dans l'affaire Cotrez, c'est parce qu'elle ignorait que les bébés étaient morts. Elle doit pouvoir agir parce qu'elle ignorait que Philippe Picot avait été tué.
Maître Michel Dessertaines, avocat de la famille Picot.
Il y a eu, lors de l'assassinat de Philippe Picot en décembre 1996, mais également dans les jours, les semaines, les mois, les années qui ont suivi, tellement de faits, de propos tenus, rapportés, colportés par Yannick Lanoux et Fabrice Motsch pour faire croire une disparition volontaire de Philippe Picot que personne ne pouvait supposer qu'un crime avait été commis. Donc cela a constitué un obstacle insurmontable à l'engagement des poursuites. Pour une bonne et simple raison, c'est que tant qu'on ne connaît pas l'existence d'un crime, on ne peut évidemment pas le poursuivre.
La voilà la bonne idée. Car la justice n'a eu connaissance du crime qu'au moment où Valérie Motsch l'a révélé, le 18 avril 2008, devant un policier plein d'empathie La prescription doit donc courir à partir de cette date. En octobre 2016, 7 ans après leurs auditions, le juge renvoie donc les 3 accusés devant les assises. Mais leur défense ne l'entend pas de cette oreille.
Je pense que la justice a considéré que moralement, et je ne peux que le comprendre, il était insupportable de ne pas juger les auteurs d'un crime aussi monstrueux. Mais encore une fois, ceci n'enlève rien au fait que l'état de droit, lui, n'est pas l'état de la morale.
La défense fait donc appel. Un appel que la cour de Versailles rejette. Alors elle se pourvoit en cassation. La réponse tombe 3 mois plus tard. Les 3 accusés devront répondre de leur crime.
Maître Mélodie Cudard, avocate de Yannick Lanoux.
Cette décision, elle est extrêmement surprenante, puisque finalement, ça reviendrait à dire qu'à chaque fois que quelqu'un qui a commis un crime cache son crime, alors la prescription n'aurait pas couru. Dans ce cas, il n'y a aucun dossier dans lequel la prescription court, puisque la plupart des gens qui commettent des crimes ne viennent pas se dénoncer spontanément à la police.
Le fait que les assassins soient jugés, c'est une joie. C'était quelque chose d'incroyable et là, ça a été... soulagement indescriptible.
Cette fois, le chevalier noir et ses complices ont perdu. La justice vient de rattraper celui qui se croyait intouchable, à quelques mois de sa libération.
Le procès tant attendu des frères Motsch et de Yannick Lanoux s'ouvre le 18 septembre 2017 devant la cour d'assises de Versailles. Un procès très court, précipité, car Motsch est libérable de ses viols le mois suivant. Mais 9 ans après la découverte du crime et 21 ans après sa commission, l'audience va encore connaître 3 rebondissements de taille. C'est le procès auquel plus grand monde ne croyait. Le procès d'un crime passé inaperçu. Les 3 accusés ne se sont pas adressés la parole depuis une dizaine d'années. Imperméable aux remords, Fabrice Motsch assume son geste dès l'ouverture de l'audience.
Il n'a aucun regret, aucun, absolument aucun regret.
Brigitte Picot, la sœur de Philippe.
Il sourit, il ricane. C'est juste insupportable, c'est...
Il est sûr de lui, il est arrogant, voilà.
Florida Gauthier, amie de la famille Picot.
Regardez-moi, vous êtes spectateur et moi je suis devant la scène. Il répond aux questions proprement, vraiment on a l'impression que le gars il a tout préparé à l'avance.
Maître Philippe Huvet, avocat de la famille Picot.
Il va reconnaître spontanément les faits en disant que s'il fallait le refaire, il le referait. Et il va avoir ce comportement qui est celui du justicier qui a sauvé la famille du joug de Philippe Picot.
Dans le box, ceux qui n'ont pas encore passé un jour en prison courbent les chines.
Brigitte Picot, sœur de Philippe.
Elle chouine, elle se cache sous une couverture par moment. On dirait une petite vieille, 80, 90 ans. Quant à Lionel Motsch, c'est un homme qui a l'air complètement perdu, a l'air de la pire des victimes, alors qu'en vérité, c'est un assassin.
La violence appelle la violence. C'est la défense de Fabrice Motsch. C'est un crime pour faire cesser les coups, les humiliations, la tyrannie d'un alcoolique, ajoute Yannick Lanoux.
Entendre des telles sornettes, ça me dépasse complètement. Je peux même pas imaginer qu'on trace un portrait comme celui-là de Philippe. C'est tellement faux que là, ça me met en colère et j'ai envie d'aller voir Yannick et lui dire « Dis la vérité !»
Au deuxième jour, les témoins défilent à la barre. 21 ans après les faits, la défense tente de prouver que la victime n'était pas un ange.
Un coup, j'avais confiance, un coup, je perdais confiance.
Florida Gauthier, une amie de la famille Picot.
J'avais toujours l'impression qu'on jugeait Philippe, donc du coup, je disais, mais voilà, ils vont s'en sortir, c'est pas possible, ils vont s'en sortir.
Et quand les 2 fils de Philippe Picot et de Yannick Lanoux viennent témoigner, c'est l'effarement.
Maître Didier Liger, avocat de Fabrice Motsch.
alors même qu'ils avaient été des années auparavant victimes d'agressions sexuelles de la part de Fabrice Motsch, qu'ils avaient donc toutes les raisons d'en vouloir à Fabrice Motsch. Ils sont venus tous les deux dire devant la cour d'assises des Yvelines, Fabrice Motsch nous a sauvé la vie, sans lui nous serions morts. Et ils ont expliqué les violences qu'ils subissaient de la part de leur père. C'est terrible d'entendre un enfant parler ainsi de son père, mais ça reflète la réalité de la violence qu'ils ont subie.
Maître Michel Dessertaines, avocat de la famille Picot.
Leurs propos, les mots qu'ils employaient, étaient à la virgule près les mêmes phrases que celles de leur mère. La présente pose la question, est-ce que vous avez un souvenir direct ou est-ce que c'est votre mère qui vous l'a raconté? Silence. Réponse, c'est ma mère qui me l'a dit.
Brigitte Picot, la sœur de Philippe.
On est vraiment révoltés, on se dit non, c'est pas possible. Comment ils ont pu inventer des choses pareilles, hein? Ça n'a aucun rapport avec la réalité. C'est crapuleux. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment... C'est ignoble.
Le témoignage des deux garçons sème le trouble. Mais tout bascule à nouveau quand la présidente donne lecture du témoignage de Virginie, la fille aveugle de Yannick et de Philippe. Elle y parle de sa mère et la violence change de camp.
Maître Philippe Huvet, avocat de la famille Picot.
On a la scène où sa mère la projette dans l'escalier et la jeune fille aveugle se retrouve au bas de l'escalier dans un sale état. Il y a aussi un événement terrible. Un jour, sa mère excédée, elle l'a jetée dehors, elle lui a donné une gamelle et lui a dit « va manger ta gamelle avec les chiens ».
Prostré sur sa chaise, Yannick Lanoux encaisse le coup avant d'en prendre un autre. La dernière surprise du procès vient cette fois de Lionel Motsch. Depuis l'arrestation de Fabrice, le petit frère soumis a réussi à se libérer de son emprise.
Lionel Motsch, quand il parle de son frère, il ne dira jamais Fabrice ou mon frère.
Maître Salia Blalouze, avocate de Lionel Motsch.
Il l'appelle l'autre, il dit le tortionnaire. Enfin, voilà, il ne veut plus en entendre parler.
Et le frère du capitaine fait à son tour une révélation glaçante.
Maître Philippe Huvet, avocat de la famille Picot.
Il explique qu'il était sous l'emprise de son frère, qu'il en a été victime sexuellement lorsqu'il était jeune, et que son frère avait sur lui une réelle autorité.
Un viol de plus dans la salle, c'est la sidération.
Florida Gauthier, amie de la famille Picot.
Mais je tombe des nues. Fabrice Motsch viole son frère, viole sa sœur, viole ses beaux-enfants, viole d'autres enfants. En fait, Fabrice viole tout le monde dans l'histoire.
Au troisième et dernier jour du procès, l'avocat général évoque un crime d'une noirceur absolue et réclame des peines lourdes. La perpétuité pour Fabrice Motsch, 20 ans pour son frère, 30 ans pour Yannick Lanoux. Le verdict tombe tard dans la nuit. L'ancien capitaine des pompiers est condamné à la détention à perpétuité. Son frère écope de 17 ans de prison. Yannick Lanoux, 25 ans.
Brigitte Picot, sœur de Philippe.
Je pense qu'elle aurait mérité la perpétuité aussi, parce que tout au long de sa vie, ça a été quelqu'un vraiment de... Comme disait mon neveu, elle a été vomie par l'enfer.
Maître Mélodie Cudard, avocate de Yannick Lanoux.
Elle est sous le choc. Aussi longtemps après les faits, dans un contexte aussi particulier, c'est une peine qui n'est pas acceptable à mon sens, pour des faits qui en plus devaient être prescrits.
Et comme d'habitude, Fabrice Motsch encaisse, sans sourciller.
Comme il s'attend à cette peine, il n'est pas surpris, il baisse pas la tête, il pleure pas, il assume.
Malgré les peines lourdes qui leur ont été infligées,
aucun des trois accusés n'a fait appel. Depuis l'affaire Motsch, la loi du 27 février 2017 a porté le délai de prescription à 20 ans pour tous les crimes.
Vous venez d'écouter le podcast de Faites Entrer l'Accusé consacré au Chevalier Noir. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast Faites Entrer l'Accusé.